Dans l'épisode précédent, j'ai rencontré Charlotte Dumeau, une journaliste qui avait interviewé Lauren Hurst en 2022. Avec elle, on a déconstruit l'image de cette adolescente prodige du personal branding. Une ascension fulgurante, des clients prestigieux, une agence qui brasse des centaines de milliers de dollars. Mais, en réalité, il y avait plusieurs éléments troublants qui indiquaient que Lauren n'était pas seule aux commandes. Derrière NextGen, son agence, il y avait visiblement un système bien plus complexe, du ghostwriting, des méthodes d'influence calibrées et une mécanique redoutable où l'image comptait décidément plus que le fond. Dans cet épisode, je vous propose d'aller plus loin avec moi dans le terrier de lapin. Je vais vous parler d'une source inattendue que j'ai découverte après mon entretien avec Charlotte, un site d'archives géré par un journaliste indépendant et d'anciens clients de Lauren qui a collecté des traces de l'activité de NextGen. Grâce à lui, j'ai pu analyser plus en profondeur ce qui se cachait derrière ses posts LinkedIn et surtout comprendre comment son agence a fini par imploser sous le poids de son propre succès. Pour décrypter cette mécanique, j'ai interviewé une ghostwriteuse professionnelle, Sophie Laurent. Ça fait des années qu'elle prête sa plume à des personnalités publiques et maintenant à des CEO, donc elle connaît parfaitement les coulisses de la com et du personal branding. Avec elle, on va voir comment on fabrique un influenceur, comment on truque la perception d'expertise et comment NextGen est allé trop loin. Mais avant ça, laissez-moi vous parler de ce site d'archives. Un site qui, contrairement à tout le reste, n'a pas disparu. Je m'appelle Alexandre et vous écoutez le Mystère Lauren Hurst, le podcast qui explore l'ascension fulgurante et la chute brutale d'une adolescente qui a marqué le LinkedIn australien de son empreinte avant d'être effacée de l'histoire du jour au lendemain. Quand on enquête sur un sujet comme celui-là, il y a une frustration majeure que vous devinez sans doute, celle de la disparition des preuves. Je vous l'ai dit, répété, tout a été nettoyé. Impossible de retrouver le moindre post de Lauren sur LinkedIn. Les articles de presse, ils ont disparu, les discussions sur Reddit, elles ont été supprimées. C'est comme si quelqu'un avait pris soin d'effacer méthodiquement toute trace de son existence digitale. Mais ça, c'est la version officielle. Parce qu'en réalité, je vous ai menti. Il y a toujours des failles. Des endroits où les informations s'accumulent et où des internautes obstinés refusent que certaines histoires soient enterrées. Peu après mon entretien avec Charlotte et pendant le montage de l'épisode 2, j'ai continué à chercher des informations sur NextGen, plus par dépit qu'autre chose en fait, hein, parce que j'avais l'impression d'avoir pas mal essoré les pistes. Mais, à force de chercher, j'ai fini par dénicher un vieux thread Reddit où un utilisateur mécontent y racontait avoir été l'un des clients de NextGen. Et il lançait un appel. Tous ceux qui ont été arnaqués par Lauren Hurst et son agence, contactez-moi. On doit se faire entendre. Dans les commentaires, la discussion partait un peu dans tous les sens. Certains disaient que Lauren et son agence étaient une fraude, d'autres la défendaient, et d'autres encore pensaient qu'elle avait été manipulée. Et puis, je suis tombé sur un message anodin, perdu au milieu des autres. Un simple lien, glissé sans mise en forme quelconque, hein, presque invisible parmi la marée de commentaires, nextgen-case.neocities.org. Neocities, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme un peu old school hein, qui permet de créer des sites internet assez simples. Du coup, curieux, je copie l'adresse dans mon navigateur et j'arrive sur un site étrange. Ça ressemble ni à un blog, ni à un gros dossier d'enquête, ni à une page d'opinion, c'est juste un pur espace d'archives. Sobre, sans fioritures, une espèce de base de données alimentée visiblement par plusieurs personnes, si on en croit la page à propos, un journaliste indépendant qui avait suivi l'affaire, Matt Newson, deux ex-clients de Lauren, et 4 ou 5 autres contributeurs, la plupart anonymes. Leur objectif, documenter chaque élément sur NextGen en vue d'attaquer l'agence en justice. En parcourant le site, on s'aperçoit vite qu'ici, tout est méthodiquement classé, structuré par catégorie. Archives des posts LinkedIn de Lauren, historique de l'activité de NextGen, témoignages de clients, capture d'écran d'échange avec l'agence, preuves matérielles, etc. Et plus je farfouille, plus je me rends compte que j'ai sous les yeux une source d'information véritablement unique. Un endroit où la version officielle est littéralement mise en pièces, preuve à l'appui. Alors, je ne vais pas vous refaire l'ascension de Lauren, parce qu'on l'a déjà assez balayé dans l'épisode précédent et qu'au fond, il n'y a pas forcément grand-chose d'inédit à rajouter. Par contre, je vais commencer par vous parler de deux choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes avec, d'abord un document qui vraiment change tout. Il s'agit d'un fichier PDF récupéré par l'un des clients mécontents. Et plus exactement, dans la description du fichier, il est précisé que c'est un livrable reçu le 16 juillet 2022 à minuit 33. Ouais, c'est précis. Donc je télécharge le fichier, je l'ouvre, et ce que je découvre est pour le moins étrange pour un prétendu livrable. Le document contient plusieurs brouillons de différents posts LinkedIn assez semblables dans leur structure, accompagnés d'annotations courtes et techniques comme, par exemple, ajouter anecdote personnelle ici, rendre plus inspirant, simplifier cette phrase, etc. Et là, on voit bien qu'il y a un gros problème. Il n'y a aucune mention de Lorraine, il n'y a pas de nom d'auteur, il n'y a pas de destinataire clair. Qui a écrit ces posts et pour qui ils étaient destinés? Sans doute pas au client, puisque c'était du brouillon avec des instructions pour améliorer les posts. Alors, à qui? À Lorraine? À un autre ghostwriter? Ça implique énormément de choses quand on y réfléchit. Donc, par exemple, hypothèse 1, Lorraine n'a jamais écrit les posts de ses clients ni les siens, ce sont d'autres personnes qui ont pris les choses en main. En tout cas, il est clair que ces corrections mettent en évidence un processus éditorial, à mon avis, contrôlé, avec une ou plusieurs personnes en supervision, peut-être Gavin Matthews et Sophia Lings, je ne sais pas, mais en tout cas, les personnes dont on parlait dans l'épisode précédent, hein, eux deux, et qui ont fondé véritablement NextGen. Hypothèse 2, Lorraine avait trop de clients et elle s'est entourée de plusieurs personnes, et son agence s'est mise derrière à fonctionner comme une usine à contenu. Il produisait en masse des posts pour plusieurs clients en réutilisant les mêmes structures et vendait du personal branding préfabriqué, si on peut dire. Et ce disant, on peut dire aussi que ces deux hypothèses, elles sont pas incompatibles entre elles. Lorraine n'a jamais eu de contrôle sur la production des contenus, et à mesure que NextGen gagnait en visibilité, ce système, il s'est intensifié. Si NextGen n'avait à la base qu'une poignée de clients, le succès de Lorraine a peut-être poussé l'agence à industrialiser encore davantage le processus. Je laisse pour l'instant ces hypothèses de côté, et on va s'intéresser à cette seconde chose que j'ai trouvée intéressante. Une section témoignages parmi les rubriques des archives, qui viennent rejoindre ceux qu'on a déjà vus dans les épisodes précédents. On en a 5, très exactement. 5 clients de NextGen qui ont laissé des récits détaillés de leur expérience et tous affirment avoir été déçus, voire trompés. Parmi les extraits, on peut lire par exemple, dans le témoignage 1, que Lorraine a vendu une stratégie personnalisée à ce client et qu'il a reçu un PDF avec des recommandations génériques. Il explique qu'il a découvert plus tard que d'autres clients avaient reçu exactement le même document. Ce client n'a jamais échangé avec Lorraine. Dans le témoignage 2, un client a demandé un accompagnement sur sa marque personnelle. Il a payé 1 200 $ et il a eu droit à 3 posts LinkedIn écrits en une semaine. Il n'y a eu aucun suivi, pas un seul échange avec Lorraine, pas une fois. Il dit que ça ressemblait à du contenu automatique. Dans le témoignage 3, un client a reçu des livrables, des posts bourrés de fautes et qui étaient visiblement très, très inspirés de trucs publiés par d'autres influenceurs du LinkedIn australien. Bref, les témoignages sont assez détaillés sur les méthodes et les pratiques de NextGen et ça prouve plusieurs choses, je pense. Déjà que NextGen n'était pas du tout préparé à l'explosion de popularité de Lorraine, l'ensemble fait très amateur. Je vous renvoie par exemple à l'heure à laquelle le mail avec les brouillons de poste a été envoyé, minuit 30, c'est pas ultra sain comme heure où travailler, on va dire. Ils ont probablement délégué en masse à d'autres ghostwriters sans trop faire attention à la qualité derrière. Et Lorraine n'avait sûrement aucun rôle actif dans tout ça, elle était juste une sorte de porte-voix pour un business qui échappait à tout contrôle. Mais si Lorraine n'écrivait pas, si NextGen n'était qu'une façade où d'autres ghostwriters anonymes exécutaient les commandes, alors il faut, je pense, se poser la question qui était réellement derrière la gestion des contenus. Et surtout, à quel moment ce système a commencé à se fissurer. Pour répondre à ces questions et essayer de comprendre cette machine invisible, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait m'expliquer les rouages du ghostwriting de haut niveau. Une personne qui connaît parfaitement les coulisses du personal branding, qui a vu comment certains experts se construisent, ou plutôt sont construits par d'autres. Sur les conseils de Rémi qu'on a déjà rencontré dans l'épisode 1, j'ai donc contacté Sophie Laurent. Sophie m'a répondu très rapidement, dans la matinée je crois, mais elle m'a expliqué qu'elle était au Canada pendant un mois et que bah, si je voulais, on pouvait se faire une visio pour discuter de tout ça. C'est ce qu'on a fait. Ce que vous allez entendre, c'est l'enregistrement de cette conversation.
Bonjour Alexandre.
Salut Sophie. Bah ouais, content de t'avoir de nouveau.
Oui, idem. Comment ça va?
Bah écoute, très bien. Alors ouais, peut-être juste avant, juste pour donner un peu de contexte aux auditeurs, quand je t'ai contacté, tu connaissais absolument pas Lorraine et je t'ai proposé de prendre 20 minutes pour t'en parler, hein, de te parler de l'enquête, tout ça. Et bah et finalement, je crois qu'on y a passé une heure et demie, non, à discuter de cette affaire.
Oui, bah oui, il faut dire que c'est passionnant quand même.
Ouais, alors avant d'entamer les choses sérieuses, j'avais aussi envie de parler de ton parcours en 30 secondes parce que je le trouve super intéressant. Tu peux te présenter rapidement ?
Oui, bah du coup, moi, c'est Sophie. J'ai commencé en 2011 en tant que rédactrice de discours pour des personnalités politiques en France. Après, comme tu peux l'imaginer, c'est un univers assez fermé. Mais j'ai eu la chance d'intégrer une équipe qui écrivait pour des élus locaux, des ministres. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Et en 2019, bah, j'ai voulu me réorienter un peu plus vers le côté business. Donc, j'écris aujourd'hui surtout pour d'essayer.
Ouais, ouais. Bah alors, du coup, voilà, c'est ça que je trouve super intéressant parce que t'es la définition même au sens littéral du terme hein, de la ghostwriteuse. Ça fait des années que tu fais ce métier, mais t'es littéralement invisible. De souvenir, même ton profil LinkedIn est tout pété. Alors, on sait pas ce que tu fais, mais toi, tu t'en fous en fait parce que tout passe par le réseau, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, non, je suis une stalkeuse, j'avoue. Je réagis à rien, je commande jamais, mais j'analyse beaucoup le travail des autres.
Ouais, en fait, tu fais partie de ces gens qui voient un post pas mal, mais qui décident sciemment de pas le liker, hein. Bah, pas merci, hein. En fait, c'est toi qui fais couler mes posts.
J'avoue. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Désolé.
Ça te pèse jamais de voir d'autres ghostwriters prendre la lumière et puis toi, rester dans l'ombre comme ça?
Non, pas vraiment. Alors, j'avoue qu'après, je suis assez réservée. Ce que tu fais, toi, poster tous les jours sur LinkedIn, je pourrais pas. Je suis très bien où je suis, hein. Et les gens de mon réseau, bah, ils savent la valeur que je leur apporte. J'ai pas besoin de LinkedIn.
C'est marrant parce que, en t'écoutant, je me dis, t'es l'antithèse de tout ce qui cartonne sur LinkedIn. Parce que tu sais, aujourd'hui, on parle d'authenticité, et puis je mets trois guillemets à ce mot, hein, à authenticité. On parle de storytelling personnel, de mise en avant de soi. Et puis toi, t'as fait le choix inverse, en fait. Être dans l'ombre, travailler pour d'autres et ne jamais revendiquer ta propre plume.
C'est vrai. Mais c'est justement parce que je sais comment tout ça fonctionne. LinkedIn, c'est une plateforme qui favorise la mise en scène, comme la plupart des autres canaux sociaux. Celles et ceux qui réussissent le mieux, c'est pas forcément les plus compétents. Ils ont simplement su raconter une bonne histoire et capter l'attention. Moi, je préfère être celle qui fabrique ces histoires, si tu veux.
Ouais, alors, oui, justement, on va parler de ça. Tu connais maintenant l'affaire Lorraine Hurst, enfin du moins les grandes lignes, hein, et je voulais voir avec toi ce que son parcours raconte de la construction d'une influence artificielle quelque part. Parce que si on revient sur ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant, ça semble presque évident que Lorraine, elle a jamais écrit ses propres posts et qu'elle a fait que porter une sorte de projet qui la dépassait. Mais d'un point de vue purement technique, comment est-ce qu'on fait pour transformer un parfait inconnu en expert influent sur LinkedIn?
C'est une bonne question. En fait, il y a une méthodologie bien précise qui s'appuie sur trois piliers. Tu as la narration, la viralité et la validation sociale. Si tu combines ces trois éléments, tu peux créer littéralement un leader d'opinion à partir de rien.
Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ces trois piliers que tu as mentionnés là? La narration, la viralité et puis la validation sociale.
Oui. La narration, disons que c'est l'art de raconter une histoire qui va capter l'attention. Sur LinkedIn, je pense que tu l'as vu toi aussi, hein, nos auditeurs également. Mes posts qui performent le mieux sont souvent ceux qui racontent une expérience personnelle, une leçon apprise, une anecdote inspirante, etc. Et d'ailleurs, hein, une étude a bien montré que les récits bien construits augmentent l'engagement de l'audience de manière significative.
Et la viralité ?
La viralité, ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment le timing de la publication, l'appel à l'action, etc. Donc, publier au bon moment, quand ton audience est la plus active, ça maximise les chances d'interaction. Et encourager les commentaires ou les partages, ça peut amplifier la portée du message. Après, je pense que je t'apprends rien, mais les algorithmes des réseaux sociaux, ils favorisent les contenus qui génèrent rapidement de l'engagement.
Ok, et pour le dernier, la validation sociale?
La validation sociale, ça repose sur le principe que les gens accordent plus de confiance à une personne ou une marque qui est déjà reconnue par d'autres. Donc sur LinkedIn, ça se traduit par des recos, ou le fait d'être mentionné par des figures d'autorité, par des pairs. Plus t'es perçu comme légitime, plus ton influence, elle grandit.
Ok, donc imaginons, on combine ces trois éléments et on peut construire de toutes pièces une image d'expert, c'est ça ?
Oui, je pense que c'est ce qui s'est passé avec Lauren. On a créé une narration autour d'une jeune fille qu'on a fait passer pour une prodige. On a utilisé des techniques clientes pour rendre ses posts viraux. Et derrière, on a construit une validation sociale en l'associant à des noms reconnus ou en tout cas qui semblaient l'être.
Ok, donc on a ces trois piliers qui permettent de créer une influence, encore une fois, artificielle, on va dire. Mais ce qui va m'intéresser maintenant, c'est comment NextGen a appliqué ces principes. Parce que tu sais, quand on regarde ce qu'on a, etc., l'ensemble, on a vraiment l'impression qu'il y a un vrai processus industriel derrière tout ça. Tiens, d'ailleurs, au passage, tu as pu jeter un œil au document que j'ai trouvé sur le site d'archives. En fait, qu'est-ce que tu en penses, en fait ?
Que ça sent la production de masse, tout simplement. On est plutôt sur une approche de content factory, d'usine à contenu.
Tu peux définir ce que c'est pour nos auditeurs ?
Oui, bien sûr, pas de souci. C'est un terme qu'on utilise pour décrire une méthodologie de production, généralement mise en œuvre par des agences, c'est un peu plus compliqué pour des free, pour produire régulièrement un important volume de contenu. Alors, ça se rencontre souvent en SEO, mais souvent, c'est un peu... l'équivalent du dropshipping. C'est du contenu produit en grande quantité, mais sans réelle profondeur, et surtout avec une structure standardisée qui est recyclée encore et encore. Donc, dans le cas de Lauren, je dirais que c'est ce qui transparaît dans les documents.
Tu peux nous donner des exemples concrets de ce qui t'a frappé là-dedans ?
Déjà, je vais repartir du PDF que tu m'as montré avec les brouillons de poste. Il y a vraiment un truc qui saute aux yeux, direct. C'est que toutes les instructions, elles sont extrêmement génériques. Ajoute une anecdote ici, on sait plus inspirant, etc. Ça montre qu'on est plutôt sur un process éditorial industrialisé où les rédacteurs, ils n'avaient pas forcément d'interaction avec les clients. Ils suivaient, un cadre préétabli et ils appliquaient les mêmes recettes à tout le monde.
Ouais, mais justement, ces recettes, elles sont basées sur quoi ?
Visiblement, je dirais qu'elles sont basées sur ce qui marche le mieux sur LinkedIn. Les posts qui cherchent à maximiser leur engagement, ils adoptent généralement une structure en trois temps. On a une accroche forte, un développement ultra clair et ultra lisible et derrière, à la fin, une conclusion qui pousse à l'interaction.
Tu peux détailler avec un exemple ?
Oui, pas de souci. Tu commences par une accroche ultra percutante, un truc qui interpelle directement l'émotion du lecteur. Un truc bateau, par exemple, j'ai failli tout arrêter. Enfin, on l'a vu pas mal de fois. Ou encore, mon boss m'a dit que j'y arriverai jamais. Ou comme Lauren, si on reprend Lauren, un truc comme à 13 ans, j'ai coaché mon premier CEO. Donc tu vois, ces accroches, elles vont jouer sur la curiosité, sur l'émotion. Elles sont calibrées pour donner envie d'en savoir plus. Donc ensuite, le cœur du post, ça va être souvent une histoire, vraie ou fabriquée, qu'importe en fait, c'est pas très important. Mais l'histoire, elle doit illustrer un apprentissage ou une leçon de vie. Et enfin, la conclusion, elle doit toujours être ouverte. Quelque chose comme, et toi, tu as déjà vécu ça ? Tu poses une question en fait, pour maximiser l'engagement. En commentaire.
Attends, je reviens deux secondes sur ce que tu viens de dire. Tu penses que l'audience s'en fout d'avoir une histoire vraie ou fabriquée ?
Honnêtement ? Ouais, dans une certaine mesure. Parce que ce que l'audience veut, c'est pas nécessairement une vérité factuelle. C'est une vérité émotionnelle. Sur LinkedIn, les posts qui marchent le mieux, c'est pas les plus rigoureux, c'est pas les plus précis, les plus techniques, c'est ceux qui ont suscité une réaction immédiate. Si une histoire est crédible, bien racontée, et qu'elle fait écho à une expérience vécue par les lecteurs, elle sera perçue comme authentique, qu'elle soit vraie ou non.
Donc, quelque part, ce qui compte, c'est pas la réalité, on va dire ça comme ça, mais la manière, finalement, dont elle est racontée.
Ouais, voilà. Là, on est, en fait, dans une logique de narration plus que d'information, totalement. Je me rappelle d'une étude qui montrait que les contenus émotionnels sur LinkedIn, ils génèrent en moyenne 70% d'interactions en plus que les contenus purement informatifs. Pourquoi ? Bah, c'est très simple en fait, hein, parce que l'émotion, elle prime sur la donnée brute. Si tu racontes une anecdote qui met en scène un échec, un déclic, une transformation, une victoire personnelle, que sais-je encore d'autre, hein, bah, les gens s'y projettent immédiatement.
Donc, Next Gen, en fait, ils optimisaient tout ça au maximum, on est d'accord?
Ouais, complètement. Ils cherchaient pas la sincérité, hein, ils cherchaient l'efficacité. Ça fait un peu punchline dit comme ça, c'est pas mal, je la garde. Mais regarde, les postes de Lorraine, ils étaient toujours basés sur des principes narratifs simples mais puissants. Des phrases courtes, une progression émotionnelle, une structure qui favorise le partage. Et surtout, bah, il y avait une intention claire derrière chaque publication.
C'est-à-dire?
Eh bien, chaque contenu, chaque post LinkedIn bien conçu doit avoir un objectif précis. Là aussi, je pense que je t'apprends rien. Donc, que ce soit générer des leads, gagner des abonnés, attirer des opportunités, faire grandir sa notoriété, etc. Donc, en tout cas, rien n'est laissé au hasard. Et bah, les posts de Lorraine, ils étaient clairement rédigés pour avoir, pour inciter, on va dire ça, un maximum de réactions. Et c'est ce qui leur donnait cet aspect viral, en fait.
Comment ils ont réussi à vendre ça à des CIO? C'est la question qu'on se pose, hein, un peu quand même.
Bah, en fait, parce qu'ils vendaient pas juste du contenu. Ils vendaient un raccourci vers la visibilité. Tu vois, ça dépend comment tu présentes la chose. T'as beaucoup d'entrepreneurs aux personnalités politiques, et là, je prêche un peu pour ma paroisse, qui savent qu'ils doivent être présents sur LinkedIn. Mais ils n'ont pas le temps ni l'envie d'écrire eux-mêmes, parce que l'écriture, ça peut être rebutant aussi. L'écriture, c'est un muscle, si tu l'as pas entretenu, voilà, c'est compliqué pour ces personnes-là. Et du coup, bah, NextGen leur proposait une solution clé en main. On s'occupe de votre image, on vous fait devenir un leader d'opinion, vous avez rien à faire, ce genre de choses. Et ça, bah, pour quelqu'un qui veut se positionner rapidement sur LinkedIn, c'est très séduisant.
Tu penses que c'est vraiment ce que recherche un CIO? La visibilité et des likes? Ce qui serait pas plutôt, pour moi, dans une optique de générer du business?
C'est une bonne question. Et bah, en réalité, ça dépend des profils, hein. Désolée pour la réponse de Normande, mais certains CEO sont très pragmatiques. Ils vont d'abord vouloir du contenu actionnable qui puisse se transformer derrière en levier de rentabilité. Mais t'as certains qui cherchent d'abord à exister médiatiquement, soit parce que bah ils ont un besoin pour leur entreprise, soit parce que bah faut le dire aussi, hein, c'est vrai qu'il y a aussi un peu d'ego là-dedans. Et c'est là que NextGen, je pense, ça frappait juste. Donc un CEO qui est actif sur LinkedIn, qui a une audience, qui génère de l'engagement, quelque part il crédibilise sa boîte. Et aujourd'hui sur LinkedIn, un dirigeant visible a plus de chances de décrocher des opportunités, que ce soit des partenariats, des investisseurs, des clients haut de gamme. Il y a même des études qui montrent que les entreprises dont les dirigeants sont influents sur LinkedIn ont un taux de conversion supérieur de 58% par rapport à celle où le dirigeant est absent des réseaux.
58%? Sérieusement?
Oui, sérieusement, oui, non, sans blague. Donc, en fait, pour expliquer simplement, c'est que les décideurs, ils font plus confiance à une entreprise, pas quand son CEO prend publiquement la parole. En gros, un dirigeant actif sur LinkedIn, c'est un vrai atout stratégique pour le coup. Mais, effectivement, l'inconvénient, c'est que ça demande du temps. Et bah, c'est exactement ce que vendait NextGen, un raccourci vers cette crédibilité.
Et donc, où était Lorraine dans tout ça? Tu penses vraiment qu'elle avait un rôle actif?
Franchement, non, je pense pas. D'après ce que t'as trouvé, ce dont on a discuté, je pense que c'était juste une figure de proue. À mon avis, elle écrivait rien et elle gérait pas non plus les clients. Son seul rôle, on va dire que c'était d'incarner la success story pour attirer des prospects. Et ça a fonctionné, on dirait, jusqu'à, bah oui, que ça devienne a priori incontrôlable.
Ok, donc, alors, pause, pause, je récapitule. NextGen vendait un produit standardisé, un package de visibilité clé en main, on va dire ça comme ça, et bah, Lorraine n'était qu'une figure marketing, un levier pour attirer plus de clients, voilà. Mais il y a un moment où tout ça a commencé à craquer, je t'en ai parlé quand on a fait notre call, hein, on peut clairement identifier à ce sujet un point de rupture. Un moment où l'illusion, si je puis dire, s'est effondrée, et ça, c'est le cinquième témoignage qu'on peut lire sur le site d'archives. Un témoignage ultra documenté, pour le coup, où on a un certain James Foster, un consultant australien qui bossait dans le secteur de la fintech, et il avait payé une presta à 10 000 dollars, un package haut de gamme, hein, comme il l'appelait, et à ce prix-là, bah, le gars, quand même, il s'attendait à un accompagnement sur mesure, une stratégie personnalisée, etc. Sauf qu'un matin, il tombe sur un poste quasi identique au sien. Quasi identique au sien, le truc, et ça a été publié par un autre entrepreneur à Sydney, je crois, mot pour mot, avec bah, juste quelques détails modifiés.
Oui, Oui, bah, ce genre d'erreur, c'est une bombe à retardement.
Ouais, bah totalement. Et là, Foster, il a eu le bon réflexe. Il a mis son poste et celui de l'autre entrepreneur côte à côte, pour les comparer, hein. Ils étaient quasi identiques. Et là, il a commencé à se poser des questions, forcément. Donc, il a cherché d'autres publications similaires. Il en a retrouvé plusieurs sur LinkedIn, toutes produites par NextGen. Mais le problème, c'est que ces contenus, ils étaient censés être exclusifs, adaptés à chaque client, si tu veux. Et là, clairement, c'était des variations du même template. T'as un avis là-dessus ?
Oui, bah, je pense que tu l'as dit. Là, on a affaire à un système où la production de contenu est industrialisée, s'enferme dans la dentelle. Il est probable que NextGen était très mal organisé ou staffé pour répondre à la demande. Et je pense qu'ils ont décidé de réutiliser des formats qui ont fait leurs preuves sans réfléchir plus que ça, c'est tout. Après, le problème, c'est qu'ici, on n'est même pas sur de l'inspiration ou du recyclage intelligent, hein. On parle d'un copier-coller quasi intégral, avec, juste quelques ajustements cosmétiques. Et ça, clairement, c'est une énorme faute. Parce que sur LinkedIn, les gens sont pas stupides. C'est un monde assez fermé en réalité. Tout le monde est dans sa bulle. Et il suffit qu'un même post apparaisse deux fois dans le feed d'une personne pour que l'arnaque saute aux yeux.
Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Foster, il a publié un long post sur LinkedIn où il expliquait qu'il avait payé une prestation super de luxe et qu'il se retrouvait avec du contenu générique, recyclé, tout ça. Et son post, il a explosé. Il a eu des centaines de réactions. Et Lorraine, s'est rapidement retrouvée, mais dans une shitstorm incroyable. Comment t'expliques que NextGen ait pu laisser passer une boulette pareille ? Manque d'organisation, ok, je veux bien, mais là, c'était quand même ultra gros.
Quand t'atteins une telle ampleur, je pense qu'en fait, ce serait peut-être plus juste de parler de priorisation des profits au détriment du produit. Ça se fait encore une belle punchline, je la garde pour une prochaine. Et pour continuer, hein, parce que en fait, ce qui s'est passé avec NextGen, c'est un effet d'emballement classique. Ils ont vu que leur modèle fonctionnait, que ça rapportait gros avec Lorraine. Alors, ils ont scale sans réfléchir à la soutenabilité du truc. Et au début, ils avaient probablement une production peut-être plus maîtrisée, avec quelques rédacteurs qui faisaient du ghostwriting classique, on va dire. Mais si la demande, elle a explosé et que de nouveaux clients sont arrivés en masse, il a fallu produire plus, toujours plus, encore plus, et surtout plus vite.
A contrario, ce que je trouve super intéressant, et c'est ce que j'expliquais aussi dans le précédent épisode, hein, NextGen, ça avait pas l'air non plus, ils avaient pas l'air non plus d'avoir tant de clients que ça, et en tout cas, pas de quoi brasser $1 million. Et comment on peut expliquer un tel écart ?
Oui, c'est une bonne question aussi. J'ai pas mal réfléchi, en fait, après notre premier call, et je pense qu'on a plusieurs hypothèses. La plus évidente, et c'est un truc hyper courant hein, dans ce genre de business, c'est l'exagération des chiffres. T'as beaucoup d'agences d'influence et de personal branding qui gonflent leur CA pour renforcer leur crédibilité en public, bien sûr. Et ça, c'est une stratégie classique. Si tu dis que ton agence a généré $1 million en moins d'un an, ça va attirer plus facilement de nouveaux clients qui veulent le même succès.
Oui, pas faux. Et d'ailleurs, ça s'applique aussi aux indés qui vendent des formations. C'est hyper fréquent d'entendre des gars dire « j'ai fait 50K avec mon bootcamp », alors qu'en réalité, quand tu creuses, le gars, il a vendu son truc à 3 potes et 2 connaissances, hein, mais ils basent leurs projections sur du fictif, hein, c'est pas grave.
Ouais, totalement, t'as raison. Je pensais aussi à un autre facteur qui a pu jouer, et je continue là-dessus, le recours au financement externe. On sait que Lorraine, elle a pas monté tout ça toute seule et qu'elle avait des figures clés derrière elle. Tu m'avais parlé de deux personnes, je crois.
Gavin Matthews et Sophia Ling.
Oui, voilà. Ouais. Alors j'imagine que ces gens, ils avaient un véritable intérêt à faire en sorte que NextGen fonctionne. Donc très probable qu'ils aient levé des fonds auprès d'investisseurs ou de business angels en vendant un modèle ultra rentable basé sur la montée en puissance de Lorraine. Et avec cet argent, ils ont pu faire tourner la machine et acheter de la visibilité, sans pour autant avoir un volume de clients suffisant, on va dire, pour justifier les chiffres avancés.
Ouais, tout à fait. Ça expliquerait aussi pourquoi, en réalité, NextGen n'avait pas tant de clients que ça, hein, parce qu'ils fonctionnaient peut-être plus sur une logique de cash burn que sur un véritable modèle d'agence rentable, en fait.
C'est une hypothèse crédible. En startup, on parle souvent de, là aussi, tu connais, hein, fake it until you make it. C'est-à-dire qu'on gonfle la perception d'une réussite pour attirer des investisseurs et espérer que, dans un second temps, le business devienne réellement rentable. Un truc que beaucoup de gens connaissent bien sur LinkedIn, hein.
Oui, après, on va éviter de parler de ça, hein, sinon on va en avoir pour 3 heures.
C'est pas faux, ouais. Mais du coup, là, sauf que pour NextGen, ça s'est jamais stabilisé. Ils ont misé sur un modèle trop fragile, trop rapide, je sais pas. Et quand les premiers clients mécontents ont commencé à parler, bah, la structure s'est effondrée parce qu'elle reposait sur une illusion plus que sur une réelle solidité.
Bah, et c'est justement là que se pose la question que je me trimballe depuis le début de cette enquête. Parce qu'on a bien compris que NextGen, c'était un château de cartes, que l'agence n'avait pas vraiment de structure viable et que bah, tout reposait sur du marketing bien ficelé. Mais du coup, il reste une interrogation centrale. Qui est vraiment Lauren Hurst ?
Bah tu vois, ça, je pense que c'est la vraie question à $1 million. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'on n'a pas toutes les pièces du puzzle déjà, mais d'après ce qu'on sait, Lauren Hurst, c'est pas l'histoire d'une gamine prodige qui a percé seule sur LinkedIn. C'est un mythe façonné toute pièce. Alors peut-être que c'était un pion dans une stratégie bien plus vaste, une stratégie, on va dire, orchestrée par des gens bien plus expérimentés qu'elle. Peut-être qu'au début, elle y croyait, peut-être qu'elle a été convaincue qu'elle pouvait devenir une influenceuse. Peut-être qu'elle s'est laissée guider par les personnes dont t'as parlé, je sais pas. Peut-être qu'elle a été manipulée, oui. Ou peut-être qu'elle a suivi juste le mouvement parce que ça lui rapportait de l'argent. Ça fait beaucoup de peut-être, hein, désolé, mais on peut pas savoir. Peut-être qu'on saura jamais.
Après cette conversation avec Sophie, je me suis retrouvé, encore une fois, avec plus de questions que de réponses. Tout ce qu'on venait de décrypter confirmait ce dont j'étais à peu près persuadé. Lauren Hurst n'avait jamais été aux commandes. Elle était une façade, un levier marketing, une figure créée pour donner du crédit à un business qui, dans les faits, ne reposait sur rien de solide. En tout cas, après la publication de son post, Foster avait déclenché un raz-de-marée. Et ce qui est fascinant, c'est à quelle vitesse tout s'est emballé. En l'espace de quelques jours, NextGen est passé d'un modèle envié sur LinkedIn à un cas d'école de désastre entrepreneurial. Ce qui avait commencé par une simple découverte de contenu dupliqué s'est transformé en une crise totale. Parce que Foster, il n'a pas juste critiqué NextGen, il a révélé un système. Et quand tu exposes un système qui repose sur du vent, il s'effondre. Dans les heures qui ont suivi son poste, des dizaines de commentaires sont apparus. Certains clients mécontents ont confirmé ces accusations. D'autres ont publié des preuves de livrables quasi identiques reçues de la part de NextGen. Puis, il y a eu les spectateurs. Ceux qui n'étaient pas clients, mais qui ont commencé à enquêter, à fouiller, à comparer. En quelques jours, NextGen était devenu le sujet brûlant du LinkedIn australien. Sur le site d'archives, on peut retrouver des captures d'écran de montage comparatif, des captures d'écran de carrousel qui détaillaient l'évolution des contenus vendus par NextGen et même des liens vers des vidéos YouTube, hein, aujourd'hui supprimées, où des créateurs analysaient le scandale Lauren Hurst comme si c'était une affaire d'État le truc. C'était partout. Impossible d'y échapper. Et, comme l'a dit Sophie, c'est le problème des bad buzz. Ils suivent une courbe exponentielle. Au début, c'est une personne qui râle, ensuite t'en as d'autres qui s'y ajoutent, puis t'as les curieux qui viennent, et enfin t'as ceux qui aiment analyser le moindre détail, et enfin, au bout de chaîne, bah t'as les médias. Parce qu'évidemment, ça a fini par dépasser LinkedIn. Un journaliste spécialisé dans les startups australiennes a commencé à enquêter, hein, Matt Newson, le journaliste indépendant dont je vous parlais, et celui-là même qui a créé le site nextgencase.neocities.org, et c'est là que NextGen a commis son ultime erreur. Là où beaucoup auraient conseillé à NextGen de gérer la crise avec transparence et stratégie, ils ont pris la pire direction possible. Ils ont mis Lauren en première ligne pour tenter d'éteindre l'incendie. Le problème ? Bah c'était trop tard. Lauren, qui était jusque-là perçue comme une ado brillante, spontanée, accessible, elle a publié une réponse qui sonnait super faux. Un poste froid, sans âme, un message corporate sorti tout droit d'un manuel de gestion de crise.
Nous sommes conscients des préoccupations exprimées par certains clients et nous prenons ces retours très au sérieux. Notre objectif a toujours été d'accompagner les entrepreneurs dans leur stratégie de contenu. Nous avons lancé une enquête interne et nous nous engageons à améliorer nos services.
Le genre de phrase, mais qui veut strictement rien dire. Une réponse qui reconnaît ni tort ni erreur, qui répond à aucune des accusations précises et qui, en plus, bah, ça ressemble pas du tout à Lauren. Et ça, tout le monde l'a vu immédiatement. En quelques minutes, les commentaires ils ont explosé. Certains ont demandé directement
« C'est ton ghost qui a écrit ce post ?»
D'autres l'accusaient de même pas comprendre ce qu'elle disait. Son propre public, sa propre audience ne la croyait plus. Et puis, il y a eu les commentaires les plus acerbes, ceux qui lui demandaient si elle avait déjà écrit un seul de ses posts publiés sous son nom. Là encore, aucune réponse. Son silence a été le dernier clou dans le cercueil de NextGen. Car du jour au lendemain, plus rien. Lorraine n'a jamais reposté après ça. Son compte a disparu. Suppression volontaire ou suspension par LinkedIn suite aux nombreux signalements, impossible de savoir. Mais le fait est que, du jour au lendemain, elle n'existait plus sur la plateforme. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que tout le reste a suivi. Les critiques les plus virulentes qu'on NextGen ont commencé à être supprimées. Des posts, des témoignages, des preuves, certains utilisateurs ont signalé que leurs publications avaient été retirées pour diffamation ou non-respect des règles de la plateforme. D'autres ont affirmé avoir reçu des menaces de poursuite pour atteinte à l'image. Et puis les articles de presse qui mentionnaient Lorraine ont commencé à disparaître eux aussi, un par un, comme si quelqu'un voulait effacer son existence numérique. En l'espace de quelques jours, c'était terminé. Plus de Lorraine, plus de NextGen, comme si tout ça n'avait jamais existé. Et c'est là qu'on touche au vrai mystère. Parce qu'il est très difficile de disparaître totalement d'Internet, surtout après avoir généré un bad buzz aussi massif. Là, ça ne ressemble pas à une simple pause après un scandale, c'est une disparition organisée. La vraie question, c'est par qui ? Qui avait le pouvoir d'effacer autant de traces, de faire pression pour supprimer du contenu, d'organiser un blackout numérique complet ? Est-ce que c'est Lorraine elle-même qui a voulu fuir ? Ou bien, est-ce que c'est d'autres qui ont décidé qu'il fallait qu'elle disparaisse ? Si cet épisode vous a plu et que, comme moi, vous voulez comprendre comment une adolescente de 13 ans a pu disparaître totalement, bah n'hésitez pas à partager et à liker le podcast et rendez-vous dans l'épisode 4. Ensemble, on va essayer de comprendre comment on peut orchestrer une telle disparition, comment on peut effacer un bad buzz à une telle échelle, quels moyens faut-il pour faire disparaître une personne du web et surtout, qu'est-ce qui est arrivé à Lorraine Hearst après ça.
Merci également aux sponsors de ce podcast, Astram Studio. Si vous êtes une entreprise B2B et que vous avez besoin de contenu à impact qui tonne et qui détonne parmi vos concurrents, le tout sous un format d'abonnement illimité, n'hésitez pas à faire appel à eux, le lien est dans la description.
Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la suite du mystère Lorraine Hearst.